Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 4h30 en temps universel, 6h30 à Khartoum. Le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Le journal tout d'abord qui débutera sur la guerre qui fait toujours rage au Soudan.
Avec une lourde frappe ayant visé le marché d'une ville du Darfour Nord, la ville de Tora. Bilan difficile à établir sur place mais manifestement très lourd. L'armée soudanaise est ici pointée du doigt. La scène politique de RDC ensuite avec les consultations menées en vue de former un gouvernement d'union nationale. Une plainte déposée devant la justice allemande. 8 témoins des horreurs ayant déchiré la région éthiopienne du Tigré entre 2020 et 2022 veulent se faire entendre. La justice qui suit son cours en Centrafrique. La Cour pénale spéciale y annonce l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul, l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui était actif il y a une dizaine d'années au moment de la crise dans le quartier du PK5 à Bangui. Après le journal, notre invité ce matin, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, il a dirigé la transition au Gabon. Il vise à présent la présidence lors de l'élection du 12 avril. Il dit être un civil tout comme les autres. Vous l'entendrez. L'actu sport également au programme, bien sûr, comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Nous sommes très inquiets des attaques persistantes contre les civils à travers le Soudan. L'alerte du secrétariat général de l'ONU dans la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric. Réaction notamment à une frappe aérienne menée sur un marché du Darfour Nord, je vous le disais, dans la ville de Tora. Elle aurait fait plusieurs dizaines de morts civiles et des centaines de blessés. Gaël Alex, des associations accusent ici l'armée soudanaise.
Il est impossible de savoir le nombre exact de victimes. Les corps continuent d'arriver, expliquait hier un médecin de l'hôpital rural de Mélite. Dans les médias soudanais, des chefs communautaires ont avancé un premier bilan d'au moins une soixantaine de morts et environ 200 blessés. Nous tenons l'armée soudanaise pour pleinement responsable, écrit sur X Darfur Victims Support. Cette organisation de la société civile a posté une vidéo montrant des dizaines de cadavres calcinés au milieu des décombres de ce qui était l'un des derniers points d'approvisionnement pour les populations civiles du Darfour du Nord. Ce ciblage délibéré des civils constitue un crime de guerre, s'indigne dans un communiqué Emergency Lawyers, une organisation qui documente les exactions de ce conflit. Les populations civiles du Darfour du Nord sont régulièrement victimes des combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. En février et mars, les camps de déplacés de Zamzam et Abouchouk ont subi le feu de l'artillerie des FSR, selon le laboratoire de recherche humanitaire de l'université de Yale. En décembre, l'armée a bombardé le marché de Cap Kabiya à l'ouest d'El Fasher, tuant au moins 80 civils, selon les Nations Unies. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Le Soudan qui entrera donc le mois prochain dans sa troisième année de guerre. Au Soudan du Sud voisin, les médias locaux parlent de bombardements intensifs là aussi. Et l'opposition proche du vice-président Riek Machar dénonce des frappes lundi soir sur l'une de ses bases militaires à Wounaliet, à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Juba. Le SPLM-IO, le parti du vice-président, parle d'une provocation constitutive d'une violation de l'accord de paix de 2018. L'armée sud-soudanaise fidèle au président Salva Kiir n'a quant à elle pas fait de commentaires pour le moment. Risquer sa vie pour survivre. En RDC, l'alerte de Médecins sans frontières qui publie aujourd'hui un rapport ainsi baptisé pour braquer les projecteurs sur la situation dans la province de l'Ituri, voisine du Nord Kivu, en proie à un cycle de violence à caractère communautaire depuis 2017 et théâtre également de l'action des groupes armés. MSF y dénonce une recrudescence des atrocités. La RDC et cet objectif sur la scène politique, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et pour cela, des consultations se tiennent autour du conseil spécial du président Tshisekedi en matière de sécurité. Or, pour l'heure, seuls les caciques de la majorité ont été entendus, Pascal Moulégois.
En deux jours, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi n'a reçu que les sociétaires de la majorité qui a aussi besoin de cohésion interne. Augustin Kabouya, le chef du parti présidentiel UDPS, l'a reconnu.
On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation.
Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, à la tête de son parti, le MLC, pense à la cohésion, mais pour la reconquête des territoires occupés par les rebelles du M23, AFC.
Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la quatrième fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subissent aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons.
Même idée pour Billy Kambalé, secrétaire général du parti UNC de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale.
Nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda.
Seront également reçus dans les prochains jours les acteurs de la société civile, mais pour le moment, les principales forces de l'opposition ont déjà rejeté l'offre, estimant qu'elle n'aidera à rien face à la crise. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
Au Zimbabwe, le chef de l'armée, Antselem Namo Sanyatwe, mis à la retraite par le président Mnangagwa. Le chef de l'armée qui devient ministre des Sports et de la Culture, décision qui intervient alors que les tensions politiques s'intensifient au Zimbabwe à l'approche des élections de 2028. Monsieur Sanyatwe, ancien commandant de la garde présidentielle, avait été sanctionné, rappelons-le, par les États-Unis en 2019 pour la répression post-électorale de 2018. Son éviction aujourd'hui pourrait être, selon certains observateurs, une manœuvre en vue de prévenir un coup d'État contre le président Mnangagwa. La justice allemande saisie pour statuer sur les violences au Tigré, cette région éthiopienne qui a été déchirée par une guerre civile ayant fait au moins 600 000 morts entre 2020 et 2022. Ce sont 8 témoins de ces atrocités qui ont déposé plainte à l'encontre de hauts responsables et d'officiers éthiopiens comme érythréens. Ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est la première plainte du genre en Allemagne, donc Paul Lorgerie.
La plainte déposée en septembre 2024 et complétée avec de nouveaux éléments le 20 mars dernier concerne 12 hauts dignitaires dont les noms n'ont pas été dévoilés. Les 8 plaignants qui ont requis l'anonymat et dont la plupart résident en Allemagne ont été témoins de différents meurtres, viols ou encore détentions arbitraires. Donc pour Nick Lady, à la tête du département des contentieux de l'association Legal Action Worldwide qui a rédigé la plainte, il y a de bonnes raisons de croire que les faits reportés constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
La plainte, qui fait environ 100 pages, est constituée d'analyses approfondies, de preuves en source ouverte ainsi que de témoignages de nos clients qui sont des victimes. Toutes ces preuves mises bout à bout devraient être suffisantes pour que le procureur allemand ouvre une enquête et, espérons-le, délivre un mandat d'arrêt.
Cette plainte intervient alors que la situation se détériore de nouveau dans la province du Tigré sur fond de tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le 14 mars dernier, l'Union africaine exprimait sa profonde inquiétude et ce malgré d'autres écritures contre l'État éthiopien portées en 2022 par l'association de Nick Lady devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuple. Commission qui avait alors émis en octobre 2022 des mesures conservatoires d'urgence pour empêcher que les violations ne se reproduisent.
Paul Lorgerie, justice en Centrafrique à présent, où la Cour pénale spéciale annonce l'arrestation de Mohamed Ali Fadoul. Il s'agit de l'un des principaux chefs des groupes d'autodéfense qui régnaient dans le quartier populaire du PK5 à Bangui entre 2013 et 2015. Arrêté le 20 mars dernier, Mohamed Ali Fadoul est accusé d'avoir participé notamment à l'attaque du 28 mai 2014 contre l'église catholique Notre-Dame de Fatima dans le 6e arrondissement de la capitale. 15 morts au moins à l'époque, dont l'abbé Émile Nzalé, et près d'une quarantaine de personnes également kidnappées, portées disparues. Un drame qui a laissé des traces sur place. Reportage de Rolf Stevdonialeu.
Debout en face de l'église Notre-Dame, Fabrice enlève ses lunettes, s'incline devant la statue de l'enfant Jésus et fait un signe de croix sur son visage.
L'attaque s'est déroulée ici dans l'après-midi. Les assaillants étaient très nombreux et lourdement armés. Ils ont d'abord lancé des grenades dans l'église avant d'ouvrir le feu sur les fidèles.
Le visage pâle, Bertin, 43 ans, était également dans l'église quand les assaillants ont attaqué les lieux à la veille de l'ascension.
C'était terrifiant. Ils sont entrés par plusieurs portes, on était tous paniqués. Je courais dans tous les sens avant de me cacher dans le presbytère.
Interpellé par des officiers de police judiciaire le 20 mars 2025 suite à un mandat d'arrêt, Mohamed Ali Fadoul, l'un des présumés commanditaires de cette attaque, est actuellement en détention. Gervais Oporte Bodangaï est porte-parole de la CPS.
Pendant cette attaque, il y a eu des cas de meurtre qui est en lien avec des crimes de guerre et aussi des meurtres d'extermination des personnes considérés comme crimes contre l'humanité pour lesquels la Cour pénale spéciale est compétente. Sa première comparution a eu lieu directement le 21 mars et il est placé en détention par la Cour pénale spéciale.
8 autres personnes ont déjà été inculpées dans le cadre de cette affaire. Pour l'instant, la procédure d'instruction se poursuit. Rolf Estève Domialeux, Bangui, RFI.
Un procès qui nous emmène en Tunisie, où s'est tenue hier la seconde audience dans l'affaire des jeunes Tunisiens ayant rallié la Syrie et l'Irak sous l'ère Daesh, c'est-à-dire entre 2011 et 2014. Sur le banc des accusés, Ali Larayed, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur tunisien, également secrétaire général du parti islamiste Ennahda. Récit de Lilia Blaise.
Ce n'est pas le procès d'Ennahda, mais plutôt de la politique du parti au moment où il était au pouvoir, résume Samir Dilou, l'un des avocats d'Ali Larayed. Ministre de l'Intérieur entre 2011 et 2013, puis chef du gouvernement tunisien l'année suivante, ce cacique historique du parti islamiste Ennahda est en prison depuis 3 ans dans le cadre de l'affaire dite de l'envoi des Tunisiens vers des zones de conflit. Ce mardi, le politicien n'était pas physiquement présent à son audience, mais derrière un écran, en visioconférence, comme les 7 autres accusés dans cette affaire, dont 3 salafistes issus de la mouvance djihadiste Ansar el-Sharia. L'accusé a tenté de prendre la parole, mais le juge a commencé son réquisitoire, avant d'être interrompu par les avocats qui ont plaidé pour un report du procès, faute d'un dossier complet. Ali Larayed est accusé sur la base de la loi antiterroriste, de laxisme, voire de complaisance dans la gestion des départs de jeunes combattants tunisiens vers la Syrie. Pour les avocats d'Ali Larayed, si l'importance d'établir la vérité et les responsabilités sur cette période est essentielle, ils estiment qu'on ne peut pas juger dans un tribunal le rendement d'un ministre sans preuve matérielle suffisante. Le procès a été reporté au 22 avril prochain. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
RFI, 5h41 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI, Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, dans quelques minutes, le génie de la science, le génie de la recherche sur le génome humain, le séquençage de l'ADN, un secteur qui progresse sur le continent. On refermera ce matin notre série de reportages débutée lundi sur le sujet. Un civil, tout comme les autres en tout cas. C'est ce qu'affirme notre invité RFI France 24 ce matin au Gabon. On recevra le président de la transition et candidat pour la présidentielle du 12 avril, Brice Clotaire-Oligui Nguema. Le Gabon, où l'on visitera ensuite l'école des mines et de la métallurgie créée à Moanda dans l'est du pays. Ce sera notre dossier Afrique Économie. L'humeur de Maman est également au programme.